1 à 0. Du coup, ce soir, il leur suffit d'un match nul pour gagner leur billet pour Pretoria. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Et puis en Formule 1, le champion du monde 2009, Jenson Button, pilotera l'an prochain une McLaren. À 29 ans, Jenson Button formera avec Lewis Hamilton une équipe de pilotes 100% britannique.
De la première.
Ici Radio-Canada.
Dimanche 29 novembre, 9h10, prix 2009 du journalisme des radios francophones publiques. Si vous voulez faire partie du jury qui classera les 4 reportages en compétition, Suisse, Canadien, Belge et Français, appelez dès aujourd'hui le 01 56 40 26 90. 01 56 40 26 90. France Inter présente Salif Keïta. La différence. Après Mofou et Mbemba, troisième volet de la trilogie acoustique de Salif Keïta, orfèvre de la musique malienne moderne. Retrouvez Salif Keïta et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter. France Inter.
La différence.
15h05 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Maman, je viens de faire un cauchemar horrible, ma petite maman. J'ai rêvé que je t'emmenais dans une maison pleine d'inconnus. Et que j'en repartais sans toi, sans même te regarder. Je me suis réveillée, ma petite maman, et je suis descendue te regarder dormir dans ta chambre. À ce moment-là, tu t'es réveillée et tu m'as demandé pourquoi je pleurais. Je n'ai osé te répondre, maman. Je t'ai pris simplement dans mes bras et je t'ai serré très fort en te disant que je t'aimais. Mais que j'avais fait un cauchemar, mais que c'était certainement dû à une émission que je venais d'écouter à la radio. J'avais envie de te dire aussi, maman, que si un jour toi partir pour une ultime demeure, ce sera au milieu de tes enfants, maman, et au milieu de cet amour que tu nous as donné toute ta vie. Je t'aime, petite maman, je ne te laisserai jamais pourrir dans un endroit comme il en existe de plus en plus.
Oui, salut Daniel, c'est Patricia de Caen. Là, ton émission n'est pas encore terminée sur les vieux, que j'ai déjà envie d'apporter mon témoignage. Mon père a été 2 ans dans une maison de retraite, la maison médicalisée de Mézidon-Canon, pour ne pas la nommer. Et tout ce que j'entends actuellement sur ton émission est, hélas, tristement vrai. Nos anciens sont vraiment maltraités. Lorsque nous arrivions et que nous nous apercevions que papa n'était pas propre, que papa ne sentait pas bon, nous demandions au personnel de le changer. Enfin, je vais dire les choses comme elles sont, de changer sa couche. Et on nous répondait que une couche le matin, une couche le soir. Voilà, ça c'est de la maltraitance. Parce que lorsque les enfants et les petits-enfants arrivent pour rendre visite à leur père, à leur grand-père, effectivement, je pense que la moindre des choses, c'est que nos anciens soient bien traités et propres. Nous avons dû nous investir dans le comité de vie sociale en tant qu'enfants, et prendre contact avec la direction et le conseil général du Calvados pour savoir quel était le nombre de couches auxquelles notre père avait le droit. Et il nous a bien été précisé qu'après des essais, les fournisseurs s'engageaient à fournir des couches qui duraient 12 heures. Voilà, les couches fournies durent 12 heures.
Oui, eh bien, votre émission était très intéressante cet après-midi sur les personnes âgées. Et ce soir, bien sûr, les journalistes disent qu'il y a une maison de retraite qui a fermé dans la Manche. Donc moi, j'aimerais bien que les journalistes fassent des enquêtes avant de lancer les choses. Il faut savoir quand même que c'est la DAS et les conseils régionaux de gauche qui donnent les subventions pour que les maisons de retraite marchent. Et vous savez, quand on est directeur de maison de retraite, on n'a aucune marge de manœuvre. Et quand on veut employer du personnel qualifié, on se fait taper sur les doigts, nos primes sont sucrées et nous sommes aux ordres de la DAS et des conseils généraux. Donc c'est les conseils généraux et les DAS qui refusent que le personnel soit qualifié parce que ça coûte trop cher, comme ça, comme c'est dans tous les établissements maintenant de santé, alors qu'on arrête de tirer à vue sur les directeurs de maisons de retraite. Et les gens qui ont des familles dans ces maisons de retraite devraient se battre contre ce gouvernement, contre les conseils régionaux et contre les DAS, tous ces pingouins en costume qui viennent faire des vérifications, qui ne s'occupent pas hein, de savoir qu'elle travaille à une ASH à faire, alors que ce n'est pas son travail à elle de le faire. Mais comme il n'y a pas de subvention, eh bien voilà à quoi sont réduits les directeurs de maisons de retraite. Moi, je pense que tous les directeurs de maisons de retraite devraient se lever et dire, à part ceux, bien sûr, qui veulent faire carrière, parce qu'il y a beaucoup de directeurs de maisons de retraite qui sont à l'UMP, eh bien les autres devraient se lever et dire, ça suffit, voilà, au revoir.
Oui, bonjour. C'est sûr que ça serre le cœur quand on entend les témoignages des personnes qui se contentent de si peu de choses en disant qu'elles n'ont besoin de rien. Mais moi, je voudrais témoigner. Ma mère a été dans une maison publique à Conflans-Sainte-Honorine. On payait un certain prix qui n'était pas exorbitant. Et vraiment, tout le monde, vraiment, la personne âgée était au milieu et il y avait des animations. C'était très, très bien. Elle est décédée depuis, mais franchement, je n'ai eu qu'à me louer. Les cuisiniers suivaient des cours, c'était pas des gamelles comme dans les cantines qui arrivaient. J'ai été très contente. Il faut quand même qu'on dise qu'il y en a quelques-unes dans le public qui sont bien. Elles ont moins un souci de rentabilité que les autres. Je pense pas que ça soit des investissements à deux chiffres, mais on changeait les personnes, on s'en occupait. C'était pas la mamie, c'était pas le papy, c'était pas Juliette ou Geneviève, c'était Madame Dupont, Madame Dubois. Voilà. Merci pour ton émission.
Je viens d'écouter vos deux émissions sur les vieux, les personnes âgées. Elles étaient superbes. Mais je ne sais pas si vous avez prévu de continuer sur ce sujet. Je suis visiteuse pour une association en maison de retraite et je connais bien les personnes âgées. Pourriez-vous parler des personnes âgées? Quelle relation peut-on avoir avec elles? Car la personne âgée fait toujours peur. C'est notre propre déchéance physique que l'on voit, oui, mentale. Et parler de la qualité des relations qu'on peut avoir avec une personne âgée, de la densité de la relation, l'intensité, oui, c'est vraiment très important et je crois que tout le monde le perd de vue.
Bonjour Daniel, je suis Gilbert. Ben écoute, hier, je me serais cru exactement là où je suis. Incroyable. À part quelques petits détails, mais l'ambiance, c'est malsain. C'est très malsain, ces maisons de retraite comme ambiance. Extrêmement malsain. Pourquoi? Ben, je sais pas. Voilà. Enfin, c'est comme ça. Alors, j'ai 67 ans et ouais, vraiment, je me trouve avec des gens beaucoup, il y a des gens beaucoup plus âgés que moi. Et j'avoue que, enfin, des fois, on a envie de craquer, hein, complètement. Voilà, voilà.
Bravo pour cette émission sur les personnes âgées. En tant que visiteur, en tant que famille, c'est vraiment impossible d'aller voir les personnes âgées. Parce que quand vous y allez, vous recevez aussi la misère des autres. Il faut être absolument blindé. Vous voyez des cris, vous entendez vous voyez des fesses, vous voyez l'intimité des autres. Mais et là-bas, vous ne pouvez même pas parler avec le vôtre, puisqu'il y a toujours une infirmière, une aide-soignante. Ils ont perdu aussi leur intimité. Et il faut savoir aussi que dans les milieux semi-ruraux, les personnes qui vont rendre visite aux leurs colportent aussi la misère qui se passe dans ce milieu et racontent des histoires de ces personnes qui sont mourantes. Mais c'est incroyable et on n'a pas envie de laisser cette intimité. Bravo pour ton émission. J'espère que tu nous parleras des Baba Yaga parce que là, au moins, ça nous montre du positif. Va voir Montreuil. À bientôt.
Eh ben, on va en parler des Baba Yaga. Merci en tout cas pour tous ces messages, très nombreux messages dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis. Vous avez compris le sujet qui concerne chacun, bien évidemment, qui concernera chacun et qui est un énorme scandale et qui dit énormément de choses sur notre société, sur notre système économique et politique, parce que on pourra aménager, réformer certaines choses, mieux former aussi les personnels, etc. Mais il y a quelque chose de fondamentalement faux et pourri dans ce système. Et là, le grand âge, les maisons, ces maisons de retraite le montrent d'une manière pathétique, poignante et éclatante. En tout cas, c'est ce qui ressort de vos messages aujourd'hui. Alors, les alternatives, y a-t-il des alternatives? Mais bien sûr, il y en a. Il y en a dans les pays du nord de l'Europe. Il y en a, on en a vu tout récemment, d'ailleurs, en Allemagne, au cours de nos reportages autour de Berlin, dans les Neues Länder, dans les nouveaux Länder, on a vu, avec les gens de Volkssolidarität, des conditions faites aux personnes âgées, qui sont beaucoup moins barbares que ce qu'on voit et ce qui est décrit dans ces reportages de Charlotte Perry. Et puis, effectivement, les fameuses de Baba Yaga, ces femmes étonnantes de, qui se battent un petit peu comme avec le ton, la puissance de Brigitte Fontaine, par exemple. Hein, c'est une chanson qui vous a beaucoup frappé. Donc, on voit bien que le combat arrive, ce combat-là arrive, et c'est un grand débat. Plus, j'allais dire, un débat de société. Non, c'est beaucoup plus qu'un débat de société. C'est un débat, c'est un vrai débat politique. Et je pense que nous apportons une petite contribution dans les prémices de ce débat. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Depuis 2003, surtout, je m'occupe toute seule de ma maman, Jeanne, atteinte de la maladie d'Alzheimer. La première galère a été pour faire accepter son maintien à domicile. En effet, le conseil général, versant l'APA, le médecin, etc., ont tout fait justement pour qu'elle ne reste pas à domicile. 2005, fracture du col du fémur opérée avec succès, mais ensuite opposition du conseil général pour verser l'APA si elle reste à son domicile. Sa maladie n'était pas encore vraiment handicapante. Question que je me pose, comment vont-ils accueillir dorénavant les personnes âgées, puisqu'il y a pénurie de structures adaptées et des listes d'attente de 2 ans et plus dans certains cas. On nous dit bien pourtant qu'il faut les maintenir à domicile le plus longtemps possible. Deuxième galère, comment trouver un établissement habilité à recevoir l'aide sociale et qui donc ne soit pas hors de prix, pour elle comme pour moi qui dois payer le complément. Elle a 900 euros par mois. J'ai battu la campagne à 50 km à la ronde, autour de la grande ville où j'habite. J'ai fait de porte à porte des maisons de retraite pendant X mois avant de trouver une solution. Troisième galère, à savoir la vie dans un établissement qui ressemble par certains côtés à ce qui se passait déjà chez ma mère, lorsque les aides ménagères d'une certaine association oubliaient d'aller la faire manger. Vol, disparition de nourriture, et j'en passe, ce ne sont pas des exceptions. Actuellement, long séjour dans un hôpital, c'est une sorte de maison de retraite, l'endroit où l'on est accepté de la recevoir, je suis obligée d'aller la faire manger et boire, car on n'a pas le temps de la faire boire. On lui met une perfusion par jour pour remplacer l'hydratation naturelle. Alors bien sûr, je suis prise pour ce que je ne suis pas, puisque même aimablement, j'ose refuser l'inacceptable et l'indignité pour des personnes sans défense que la famille abandonne assez souvent, ce qui est le cas du reste de ma famille. Je n'en dis pas plus.
Oui, bonjour, c'est Agnès en Lozère. Je voulais donner un petit air de gaieté parmi tous ces témoignages épouvantables qui sont bien réels, malheureusement, au sujet des maisons de retraite. Je voulais vous dire d'aller faire un petit tour en Lozère, dans une maison qui est située à Mende, en plein centre-ville, qui s'appelle l'Adoration. Je pense que ça doit être la meilleure maison de retraite de France, probablement. Tellement l'esprit est humain, tellement les gens sont respectés, bien traités. Et voilà, c'était un petit témoignage. Au revoir.
Salut les petits loups, c'est Françoise du Repère du 20e. Je vous rappelle le prochain repère, samedi 21 novembre, qui se tient comme d'hab à 17h au lieu dit 6 rue Sorbier. On y parlera de création monétaire. On parlera aussi du sucre, pas celui que vous mettez dans votre café, mais de celui que sont en train de concocter les membres de l'ALBA en Amérique latine. À bientôt, bises.
Moi, ça fait 10 ans que je suis là.
10 ans?
10 ans. 10, pas 6, 10. 10 ans. Mais je vais vous dire que ça a beaucoup changé. Parce que quand je suis arrivée il y a 10 ans, c'est pas la même ambiance.
C'est comme ça, il faut qu'il y ait du rendement, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, il faut que...
Et
à l'heure actuelle, les personnes âgées, c'est du bétail. Et encore, je veux dire, je crois que maintenant, un animal, s'il souffre, il est on le pique. Hein. On ne laisse pas comme ça.
Maman, ne crie pas. Ils vont croire que t'es toc-toc.
On fait ça à des nouveau-nés, mais ça serait de la haute maltraitance. À des vieux, on va vouloir faire ce qu'il veut après tout.
Un État devrait être jugé sur la manière dont on prend en charge les vieux ou les fous.
Oui, papa.
Vous pouvez pas vous préparer votre petit déjeuner?
Non.
J'ai l'impression que quand on rentre, et je suis à peu près sûre que c'est ce que maman a eu,
comme idée, on a l'impression que c'est là, c'est fini. Là, c'est le mouroir. La vie, elle s'arrête là. Elle va s'arrêter parce que vous êtes en maison de retraite et vous n'en sortirez pas. Si un jour je me retrouve en maison de retraite, j'espère ne jamais y venir. Jamais.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Charlotte Perry. Nous avons décidé de ne plus lire les livres, mais les rides de nos ancêtres. Flight number 2, arriving from
New York. Alors vous, vous étiez aide-soignante dans une maison de retraite qui appartenait à Orpea, à Carcassonne, ici. Vous avez travaillé combien de temps pour eux ?
J'ai travaillé 3 ans et demi pour, en tant qu'aide-soignante de nuit.
Comment je pourrais interpréter ça ? J'ai été licenciée suite à ma dénonciation de la maltraitance.
Et le harcèlement sur le personnel, quand tu disais vraiment ce qu'il y avait, ça plaisait pas. On te demandait les textes de loi, quand tu amenais les textes de loi, on t'envoyait promener, voilà.
Vous étiez combien de personnes la nuit ?
2.
Pour combien de résidents ?
90 résidents. Et souvent, une aide-soignante diplômée et une personne non diplômée. Et en cas de problème, on devait faire appel à quelqu'un, à un numéro de téléphone qui se trouve dans un autre département. Donc on était livrés à nous-mêmes, on devait... En cas d'urgence, on devait soit appeler le 15 et gérer la situation, l'urgence, comme ça.
Alors moi, je suis rentrée pour remplacer une salariée malade. Et le 8 novembre de cette année, j'ai reçu un message téléphonique. C'est pas la peine de venir lundi, nous ne renouvellerons pas votre contrat. Ça faisait 36 mois que je travaillais avec eux.
Mais vous pensez que c'est pourquoi ?
Parce que je disais un peu trop ce que je voyais. Je respectais parce que les gens, les poches à urine traînaient par terre, les barrières étaient pas mises, les gens couchaient mal couchés.
Dans leur excrément.
Dans leur excrément. Pour pas mal de laisser aller, quoi.
Des actes quand même de maltraitance.
Et c'était pas bon de le dire. En fin de compte, tout a été fait comme si nous, en tant que personnel, qu'il fallait qu'on fasse une espèce de challenge. Quelle équipe va finir le plus tôt, qui va doucher le plus. On arrivait même entre nous, sans qu'on se rendait compte que c'était pas tout à fait les résidents qui primaient. C'était autre chose. C'est faire plus, plus vite. C'est le rendement. Il faut à telle heure, il faut que ce soit fait. Tout est comme ça, en fait.
Moi, je me suis vue prescrire à une dame en fin de vie d'un cancer du côlon. On m'a dit, sur cahier, mettez-lui un suppôt de Doliprane 4 fois dans la nuit. Je ne sais pas si vous imaginez.
Quant à moi, on m'a pratiquement accusé d'avoir tué une personne. Elle n'est pas morte d'ailleurs, hein, parce que je n'ai pas mis l'oxygène. Je n'avais pas de prescription d'oxygène. En plus, je n'avais pas de lunettes à oxygène. Je me mettais quoi, les doigts dans le nez ?
Parce qu'on dit que c'est centre médicalisé, mais il faut quand même avoir les moyens de pouvoir mettre l'oxygène à quelqu'un qui est en déficience respiratoire. Quand j'ai regardé la dernière fois le site, ils ont gagné un bénéfice de 511 millions d'euros en 9 mois. Donc je ne sais pas sur qui ils font ce bénéfice. Enfin, nous, on conseille, mais pendant 6 mois, j'ai demandé une demi-plaquette de beurre supplémentaire pour pouvoir beurrer correctement le pain et les biscottes. 6 mois, ça a duré. À 2500 euros par mois. Tout est compté. Bon, je sais que c'est matériel qui coûte cher, mais bon, il y a un minimum quand même, je pense.
Bonjour.
Bonjour.
Martine, comment ? Ça va, ça
va. Pas si facile d'entendre ce genre de témoignages de soignantes, en l'occurrence, de maisons de retraite, parce que celles nombreuses, majoritairement des femmes, et ceux aussi qui y travaillent, savent très bien ce qui s'y passe, mais on a peur des représailles, on a peur de perdre son boulot, on a peur de... Voilà, alors on n'est pas off. C'est off. Bon, attendez, fermez votre micro, je vais vous dire, mais surtout, vous dites pas, etc. Alors, ces deux femmes-là parlent parce que, vous avez compris, elles se sont fait virer. Alors ça, c'est étonnant, on était un petit peu sidéré parce que elles se sont fait virer d'une entreprise qui s'appelle Orpea. On en a déjà parlé dans ces reportages. Et Orpea, écoutez, c'est une, alors là, c'est la Rolls. C'est le nec plus ultra des maisons de retraite. 5 à 6 000 euros par mois, quand même. Et ben, voilà. Et ces deux-là qui sont pas contents du tout. Et pourtant, je le répète, Orpea, c'est le premier exploitant privé français de maisons de retraite qui détient 144 maisons, qui avait 144 maisons de retraite au 1er mars 2008. Et Monsieur Marian, dont on a déjà cité le nom dans ses reportages, qui est le président, possède 32% de l'entité, soit une fortune dépassant les 400 millions d'euros. Et fait partie des meilleures progressions de fortune du magazine Challenge chaque année. Donc voilà, on est un petit peu, il y a comme une sorte de contradiction. C'est pas la seule, il y en aura d'autres d'ici à 16h dans Là-bas si j'y suis. On tue les vieux.
Madame Maréchal, mettez-vous plus droite. Mangez. Ah, mais mère.
Est-ce que c'est bon?
Madame.
Vous mangez là, le chou-fleur, le poisson.
Oh, c'est bon. Mais moi, j'aime pas le poisson.
Miss Alzheimer mange tout, leur cervelle. Décidez sans forte l'assiette.
Pour la peine, on donnera deux desserts, alors. Comme les enfants, hein. On fait pareil.
Bah, vous êtes pas loin de la vérité, parce que je crois que je retombe mon enfance.
Ah oui?
Miss Alzheimer mange tout, leur cervelle, décidez sans forte l'assiette.
Eh ben parce que je perds la boule, je me rappelle plus rien. Alors moi, quand j'étais gamine, ma mère m'appelait la sans cervelle. C'était pas pour rien. Alors vous croyez que ça va s'arranger maintenant? À 90 ans, ça m'étonnerait.
Tout ça est très joli. Mais il y a monsieur son mari. C'est pas de tout repos. Le sac à main dans le frigidaire. Les bébés pointus, les deux toilettes. La miss regarde des photos d'air. Trouve cet étranger à son goût. Oh, c'est qui cette belle dame? Mais voyons, c'est toi, mon amour.
Tout ça, c'est parce que je suis restée là.
Oui, mais qu'est-ce que je vous ai dit ce matin?
Mais rien du tout, un petit peu.
Non, écoutez-moi. Vous dites que vous voulez pas rester là. Qu'est-ce que je vous ai dit ce matin par rapport à votre maladie? Ben vous voyez?
Oui.
Parce que vous avez la maladie d'Alzheimer.
Oui, c'est ça.
Et c'est quoi la maladie d'Alzheimer?
Ben, c'est quelque chose qui touche la mémoire.
C'est ça, ben vous voyez? Non. Et vous pouvez pas être toute seule chez vous, ce serait trop dangereux.
Ah oui, d'accord.
Quand vous faites à manger, si vous oubliez de fermer le gaz.
Oh, ben alors.
Voilà.
C'est ça la maladie d'Alzheimer?
Eh oui.
Ah, attendez, merci.
Ah, bon, dit-elle, pas fixée du tout. Elle est pas vieille, Miss Alzheimer.
La maladie d'Alzheimer.
Est-ce que vous avez?
Je suis là.
Miss Alzheimer mange de la cervelle. Décide sans vol de l'assiette. Tout ça est très joli. Mais il a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Miss Alzheimer, la nuit se réveille. Monsieur, que faites-vous dans mon lit? Mais mon amour, je suis ton mari. Ça, Miss Alzheimer, le prend mal. Non, mais dis donc, faut pas me la faire. Allez, où ce gamin hors du lit? Alors le vieux gamin se relève. Il pleure, il rit et il engueule.
Qu'est-ce que vous voulez leur expliquer?
Ben que j'ai la maladie d'Alzheimer.
Mais ils le savent.
Ben tant mieux s'ils le savent.
Ils le savent directement alors.
Miss Alzheimer mange de la cervelle. Décide sans vol de l'assiette. Tout ça est très joli. Mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas du tout repos. Miss Alzheimer a mangé sa cervelle.
Allez, moi je vais faire la sieste.
Alors,
sera, vous rentrez, vous avez la grande charte de la personne âgée, mais on ne peut même pas appliquer une ligne. À l'heure actuelle, c'est impossible.
Quand on a créé des maternités, on a des usines à bébés, on a des usines à vieux. Voilà.
On peut rien faire à ces personnes-là. Enlevez-moi là, ça, elle pue.
Je fais toujours référence au XXe siècle qui a été celui des droits de l'enfant. On a mis un siècle pour y arriver. Bon, j'espère simplement qu'on ne mettra pas un siècle pour justement les droits des personnes âgées.
Non, vous avez un quota respecté la nuit normalement. Bon, vous devez faire tant de passages. Avec leur nouvelle couche, parce qu'ils font des statistiques, des machins. Une couche a une autonomie de 8 heures. Mais bon, quand vous avez des perfusions, ça ne dure pas 8 heures. Et en plus, c'est pas vrai, c'est pas gardé les urines. Vous voyez macérer pendant 8 heures dans les urines et les selles. C'est l'état des fesses, hein, les escarres, les flictaines, les tout est... Et donc tout est basé sur l'économie. Et puis alors attention parce que si au mois de novembre vous avez épuisé le stock, eh ben il y aura plus rien. Vous ferez sans à l'aise, vous changerez les draps toute la nuit. Donc peut-être que le directeur aura peut-être une meilleure prime pour celui qui aura fait dépenser moins d'argent pour l'échange, etc. Non mais c'est comme ça. Je veux dire c'est
un génocide gériatrique. Sans culpabilité, parce que on est appelé à mourir, surtout quand on est vieux. Génocide, gériatrique, sans culpabilité. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, et dans nos cultures à nous, dans les cultures occidentales, des pays industriels et capitalistes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur cette planète, eh bien la vieillesse est envisagée uniquement en termes d'inutilité, de contraintes, et de charge. Et pourquoi la vieillesse est-elle envisagée uniquement de cette façon? Eh bien parce que nous sommes dans un seul contexte économique. Il n'y a plus qu'une seule dimension, c'est l'économie, ou plus exactement la financiarisation de l'économie. Nous vivons ce fascisme-là, nous vivons cette dictature-là, nous vivons cette tyrannie-là, et elle est ici sensible, elle se donne à voir et à entendre. C'est un des reportages les plus consensuels qu'on ait fait. C'est-à-dire que vous êtes tous d'accord avec ce que nous disons, et nous ne sommes pas les premiers, bien sûr, à le dire. Quelqu'un qui met les mots sur les choses et qui finalement, malgré ce consensus, est assez rare, c'est le professeur Soubéran, qu'on a déjà rencontré, qui est l'un des auteurs de ce livre que j'ai cité à plusieurs reprises, qui s'appelle « On tue les vieux » et qui est prof à la faculté de médecine de Marseille et qui enseigne l'enseignement de la gériatrie. Et qui nous dit, selon lui, ce qu'est cette orgrie.
Vous abordez ce secteur de l'orgrie, et là je crois qu'il y a deux commentaires à faire qui me paraissent importants. Un qui sera assez lapidaire. Est-ce que vous connaissez un groupe de maisons de retraite qui est fait faillite, malgré la crise économique actuelle? Donc vous voyez que là, je crois quand même que ça mérite qu'on y réfléchisse. Si vous voulez, c'est ce qui est quand même intéressant, là, c'est de voir que ça n'est pas spécifique à notre pays. Lorsque M. Bill Clinton, lorsqu'il avait fait sa campagne, si vous voulez, bon, il s'était élevé, bien entendu, contre tous ces abus. Il avait dit, lorsque je serai président, je mettrai un terme, etc. Ben, lors de sa campagne présidentielle, un des plus gros pourvoyeurs de fonds, comme on fait aux États-Unis pour sa campagne, ben, ça a été un directeur de maison de retraite. Voilà. Alors après, la même chose s'est retrouvée avec Tony Blair lors de sa campagne électorale. Donc on voit bien que, encore une fois, quelles que soient vraiment les bonnes volontés de ces politiques, il arrive un moment où l'argent finit par faire oublier beaucoup de promesses. Et je crois que ça, c'est aussi une réalité. Alors le deuxième point que je voulais soulever à propos de cette marchandisation de la vieillesse, c'est que il faut savoir que nous sommes actuellement au niveau des États gérés par l'accord sur la généralisation des services, commercial des services, qui fait partie de l'Uruguay Round, et que dans ces accords qui ont été signés par tous les grands pays, tous les grands pays industrialisés, il faut bien comprendre que la santé est sortie du domaine public et est devenue une marchandise. C'est devenu une marchandise, c'est devenu un bien de consommation. Et là, évidemment, on se trouve en plein dans un phénomène d'économie de marché, avec la concurrence et avec, je dirais presque à un moment donné, un risque réel de déviation vers un manque d'éthique dans la gestion. Et là encore, on est confronté actuellement à cette situation. Et donc, ces applications ne vont pas dans le sens, certainement, d'une bien-traitance. Certainement pas.
Ces grands groupes à but lucratif, ils sont financés par qui ?
Ben écoutez, ils sont financés, bien sûr, par leurs patients, où on demande des prix qui n'ont rien à voir avec le service public, bien entendu. Et en même temps, il tient aussi, il a droit aussi à l'aide publique. C'est ça, c'est un des paradoxes, hein. Et notamment, dans le cadre des conventions tripartites, il reçoit aussi des contributions de l'État. Alors tout ça, évidemment, ça fait beaucoup d'argent.
Bienvenue dans Raison la Côte, l'émission consacrée aux sociétés cotées. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un médecin, le docteur Jean-Claude Marian. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes bien plus qu'un médecin parce que vous êtes aussi créateur d'une entreprise, Orpea, le fondateur d'Orpea il y a 20 ans. On attaque tout de suite avec les dossiers qui fâchent. C'est le cours de bourse, hein. C'est ce qui fait mal actuellement. Et là, on n'a pas de thérapie, hein, pour l'instant. Tout le monde souffre. Orpea, c'en est où là ? 23,50 à peu près, l'heure où nous sommes ?
Oui, autour de 23,50. Bon, je dirais qu'on a quand même résisté de façon assez solide par rapport à l'effondrement général des marchés.
Donc, vous faites quoi ? Moins 40, moins 39 sur un an ?
On fait à peu près moins 40 sur un an et moins 8 environ depuis le début de l'année par rapport au CAC qui était à moins 20.
Ouais.
Donc, je dirais que notre caractéristique de notre métier qui est extrêmement protégé des aléas économiques montre une certaine résistance et nous sommes confiants en tout cas pour l'avenir de la même façon.
Parce qu'en fait il y a de la visibilité hein, sur un métier comme le vôtre.
Voilà, nous avons une formidable visibilité puisque nous surfons sur la vague démographique. 24 000 lits dont 7 000 en construction, 17 000 opérationnels.
Donc et une forte croissance. Hein,
une très forte croissance puisque l'année dernière notre chiffre d'affaires a augmenté de 29% et que nous sommes optimistes sur l'évolution cette année puisque nous avons la chance d'être très indépendants de l'évolution économique.
En fin de compte, avec le recul, on le voit maintenant, on a l'image qui revient maintenant, c'est que le personnel soignant, je pense, était prêt à faire pratiquement et on faisait n'importe quoi. Parce que on était là pour ça.
Des fautes médicales, il n'y a jamais eu d'avertissement. Ça. Mais quel type de faute médicale ?
Dosage d'héparine trop important.
Dosage de ?
D'héparine.
Si c'est ?
C'est pour liquéfier le sang.
Et ça provoque quoi ?
Des hémorragies. Le soir, quand on est arrivé, elle était morte. Voilà. C'était un vendredi soir, elle devait sortir samedi. Elle était là juste pour une semaine. Mmh.
Plusieurs fois, une dame aussi, elle a été placée 15 jours, le temps que sa famille fasse des démarches. Et suite à une chute, elle est décédée peut-être un jour avant de sortir. Le problème, c'est que c'était toujours géré à retardement. Et voilà, il y avait ce genre de soucis. Et ça s'est produit et reproduit maintes fois. Bon, moi, je vous l'avoue, il y a un monsieur qui s'est suicidé. Hein, il s'est pendu à son...
Ouais.
Un monsieur qui s'est pendu... À son perroquet, ce qu'on appelle, c'est la barre avec un qui permet de se remonter, de redresser dans son lit tout seul. Et donc, à la suite, justement, d'une personne qui était là, qui lui a dit, oh, mais qu'est-ce que vous puez, vous êtes dégueulasse, enfin, etc. Ce monsieur, déjà, il avait toute sa tête. Il devait subir une intervention chirurgicale. Donc, il a eu un moment de faiblesse. Il a dû seulement attraper une gastro ou un truc. Puis la contrariété, comment ça se passe. J'ai mis en plus chez une personne âgée, etc. Et la soignante lui dit oh, qu'est-ce que vous puez, vous êtes dégueulasse, enfin des mots impensables, mais sauf que ce monsieur avait sa tête. Et à sa prise de poste, ma collègue, elle l'a retrouvé pendu. Moi j'ai connu ces gens-là travailler comme ça, parler comme ça, et qui sont encore là actuellement.
Oui, c'est assez souvent quand même. On maltraite la personne et on lui enlève sa dignité en fait. C'est...
Voilà, parole de soignante, ou plutôt d'ex-soignante, virée pour avoir dénoncé les conditions de travail et de traitement des personnes âgées dans une des maisons appartenant au monsieur précédent, monsieur Marian, président d'Orpea, très content des résultats boursiers. de son entreprise avec cette formidable visibilité dont il est si fier et qui fait plaisir à ses... À ses collaborateurs et à ceux qui investissent dans son affaire. C'est une vieille histoire dont on parle, hein, celle des vieux. La vieillesse est un secret honteux et un sujet interdit. Ainsi s'exprimait Simone de Beauvoir, auteure en 1970 d'un livre intitulé « La vieillesse ». En 1970, Simone de Beauvoir avait 62 ans, était née en 1908, et c'est ainsi qu'elle présentait son livre.
Là, je voudrais que les gens se rendent compte qu'une société qui réduit ses membres à la fin de leur vie à un sort aussi misérable, à la fois économiquement et psychologiquement et sous tous les angles, une société a quelque chose en elle de pourri et qu'on ne peut pas la réformer tout simplement, qu'il faut vraiment la bouleverser complètement. Et je voudrais que les gens prennent conscience de ça, que vraiment c'est une tare qui met en cause la société tout entière. Et qu'ayant pris conscience de ça, il y ait un plus grand nombre de gens qui prennent une attitude vraiment révolutionnaire à l'égard de cette société. Naturellement, c'est un vœu qui ne peut guère être réalisé parce que les gens qui ont intérêt à ce que la société reste telle qu'elle est sont très nombreux. Et ce sont ceux qui ont le plus de pouvoir et par conséquent, ils veulent la garder telle qu'elle est. Mais enfin, c'est une chose qu'il faut nettement comprendre, la vieillesse qui est faite aux travailleurs, à l'ensemble des membres actifs de la société, est quelque chose de réellement déshonorant et qui dénonce la société dans tout son ensemble. D'ailleurs, cette vieillesse n'est pas justement simplement un hasard, le fait d'une mauvaise politique de la vieillesse, c'est une mauvaise politique de toute la vie humaine, parce que on traite les gens comme étant des instruments, des machines, et non pas des hommes à partir de l'âge de 20 ans, dès qu'on commence à les faire travailler dans les usines ou à terre ou même dans les bureaux, etc. Et ils arrivent complètement usés au seuil de la vieillesse, si bien qu'il ne suffit pas d'une bonne hygiène une fois qu'ils sont vieux pour pouvoir garder une santé, ils sont déjà ruinés et usés. Si on voulait que les vieillards soient des hommes, c'est comme ça que je conclue, il faudrait que toute leur vie, on les ait traités en hommes. Sans ça, en n'ayant pas été traités en hommes, ils sont tout de même maintenus parce qu'ils avaient la jeunesse et la santé de la jeunesse et en même temps des occupations qui tiennent les gens en haleine. Mais privés de ces occupations et un peu diminués physiquement, très très rapidement, ils dégringolent complètement.
Simone de Beauvoir, donc en 1970, lors de la publication de son livre intitulé « La vieillesse ». Retour à Carcassonne, dans cette maison de retraite appartenant au groupe Orpea. Ainsi parlent les aides-soignantes.
Si t'es pas Orpea, t'es contre Orpea. Si on n'est pas avec Orpea, on est contre Orpea, alors on n'a plus qu'à foutre le camp. On nous l'a dit, hein, le directeur. Il a dit, ou on est avec Orpea, ou on est contre Orpea. Ouais.
Il y en a un, il est venu, un directeur qui a fait fonction de directeur, parce que pour un bon moment, il n'est pas de direction. Et il a dit aux filles ouvertement à la réunion, on va vous faire du nettoyage.
Ils sont arrivés dans un endroit de merde, que nous sommes de la merde. Ça a été dit, mais devant tout le personnel. Moi j'ai dit, mais vous pouvez pas nous traiter de merde, c'est pas nous. Attendez. Moi, je suis désolée, mais moi, je ne suis pas de la merde. On a quand même une... elle a bien aussi... deux.
Elle a fait deux tentatives de suicide.
Mais c'est quand même aussi... Ça a été quand même difficile. Très difficile. Une détresse terrible dans le personnel soignant. Une détresse. Donc on s'en sort plus ou moins bien.
Des choses que, bon, moi, j'ai voulu dénoncer et, ben voilà, ça m'a coûté ma place, ça m'a coûté beaucoup de choses. Je me suis retrouvée au Resto du Cœur, j'ai eu des choses...
Dormir
dans ma voiture, pour expulsion, etc. Oui, non, mais c'est un peu hard, quoi.
La résidence Karma Bleu est construite au pied de la cité de Carcassonne, cité inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Elle est située sur les berges de l'Aude, à deux pas du centre-ville, desservie par deux lignes d'autobus. Nous sommes un établissement médicalisé pour personnes autonomes, semi-valides et dépendantes, d'une capacité d'accueil de 90 lits. Les résidents sont accueillis dans un espace lumineux, calme et chaleureux. Une animatrice propose divers ateliers, tels que des activités de stimulation, de la gymnastique douce, de la cuisine. Toute l'équipe est au service du bien-être de chacun de nos résidents.
Quand j'ai regardé la dernière fois le site, ils ont gagné un bénéfice de 511 millions d'euros en 9 mois. Donc je ne sais pas sur qui ils font ce bénéfice. En 6 mois, j'ai demandé une demi-plaquette de beurre supplémentaire pour pouvoir beurrer correctement le pain et les biscottes. 6 mois, ça dure. À 2500 euros par mois.
Toute l'équipe est au service du bien-être de chacun de nos résidents.
Voilà, une page de publicité. L'or gris ne dit plus que vous n'êtes bon à rien quand vous êtes vieux, auditeur dans votre maison de retraite qui nous écoutait, qui témoignait sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Vous êtes utile, on fait de l'argent sur vous. Et quelqu'un disait, il y a toujours du sang de pauvre dans l'argent des riches. Il faudrait dire, il y a toujours du sang de vieux dans l'argent des riches, désormais. Comment est-ce gérer ces maisons? Comment ces maisons de retraite sont-elles gérées? L'analyse et le regard du professeur Soubéran.
Alors, la maltraitance institutionnelle va se développer dans des établissements, que ce soit des établissements privés, mais aussi des établissements publics. Il ne faut pas faire le procès de l'un plutôt que l'autre, même si beaucoup d'enquêtes ont montré, des enquêtes très sérieuses, que cette maltraitance institutionnelle était plus importante dans les établissements privé que dans les établissements publics. Dans les établissements à but lucratif, comme le nom l'indique, comme l'adjectif l'indique, ce sont des établissements qui ont un objectif de rentabilité. Il est certain qu'à partir du moment où il y a un but lucratif, il y a un risque de dérapage qui est plus important que lorsqu'il n'y a pas cette orientation lucrative. Et donc, dans ce contexte-là, c'est vrai, dans ces établissements, il faut bien voir une chose. Donc, quand les établissements ne fonctionnent pas bien, c'est d'abord la peur du personnel de se faire envoyer, surtout dans une période de crise économique où les gens ont besoin de conserver leur emploi, donc ils se taisent, même si ils sont parfaitement conscients qu'il y a des choses qui vont pas. Donc évidemment, on peut toujours dire, bah, alors ils sont condamnables, vous savez, c'est facile à dire ça, hein, mais bon, quand on a un emploi, quand on a une famille, quand on a, il faut comprendre aussi que ce qui n'est pas normal, c'est pas que ces gens aient peur, c'est que ils soient obligés de travailler dans des conditions qui créent la peur chez eux, qui entretiennent cette peur. Et c'est ça qui n'est pas normal. Et puis ensuite, il y a une autre peur également, c'est que de dénoncer ces dysfonctionnements, il y a des familles qui ont peur qu'ensuite il y ait des vengeances qui s'expriment sur leurs parents, qui sont bien sûr des résidents de ces établissements. Voilà, je crois que c'est une réalité, ça existe. Je crois que quelles que soient les mesures qu'on a pu prendre ces dernières années par le gouvernement, et oui, indiscutablement, il y a des mesures qui vont dans le bon sens, la vraie question qui se pose, est-ce qu'il suffit d'annoncer des mesures pour se dire que le problème est résolu, ou bien est-ce qu'il faut se dire, ce qui est important, c'est d'appliquer ces mesures.
Vous, j'imagine que vous avez jamais de toute façon envisagé la maison de retraite un jour ou un autre.
Non, moi je suis une bête de liberté, vous savez, je suis une vieille chèvre. Donc il n'était pas question que je m'en aille dans des lieux clos, fermés, avec une hiérarchie, avec des gens qui veulent me faire manger à l'heure qu'ils veulent et pour la mienne. Non, ça c'est inenvisageable, j'ai même suicidé.
Voilà, vous l'avez reconnu peut-être, c'est Thérèse Claire, 82 ans, une auditrice demandait est-ce qu'on parle des Baba Yaga. Et bien les voilà, les Baba Yaga, c'est une alternative. Est-ce que cette alternative est viable, est un modèle qu'on peut copier partout sur cette planète? C'est pas du tout certain, mais en tout cas, en voilà une alternative. Il y en a d'autres dans certaines régions, il y a des expériences nouvelles, que ce soit en France ou ailleurs, le pouvoir est à l'imagination.
Bon, alors les Baba Yaga, nous on a pris un peu le contre-pied, on n'a pas pris le contre-pied, on n'est pas contre les maisons de retraite, mais on est pour une bonne vie de vieux, de vieille plutôt, parce qu'il y aura que des femmes, donc on a rêvé, on a désiré autre chose, parce que l'innovation vient du désir à coup sûr, et que notre utopie, c'est de vivre dans une maison autogérée, où personne ne va nous donner des ordres, parce qu'on a chacune notre petit logis, entre 30 et 35 mètres carrés, on a notre petite cuisine, on a notre douche, et nos toilettes. Et le tout avec une très bonne isolation thermique et phonique, puisque nous avons des matériaux écologiques. Donc, normalement, on devrait être très heureuse là-dedans. Mais hier, par exemple, on a pensé qu'il faudrait se forger une pensée politique à partir de la vieillesse, de manière à pouvoir argumenter à n'importe quelle demande. Il faut pouvoir avoir une voix, pas unanime, c'est pas ça qu'on demande, mais avoir au moins un système de pensée qui sache évaluer la vieillesse, la faire évoluer, et avoir un langage commun pour l'utopie. Parce que la maison des Baba Yaga, c'est une utopie. C'est une démarche politique. C'est pas du tout une démarche sociale, c'est pas une démarche gérontologique. Encore que la maison, on y pense quand même fortement, avec l'architecte, avec tous les gens qui construisent cette maison. Mais c'est une démarche politique. Nous voulons changer le regard de la société sur les vieux, des vieux sur eux-mêmes, et des vieux sur la société. Parce que le regard de la société sur les vieux, il est terrible. Il est réducteur, il est méprisant, il est agressif, donc il est plein de sollicitude. Alors, comment vous allez, ma petite mamie? On a horreur de ça. J'ai envie de leur dire, ma petite mamie, je vais pas dire de grossièreté à la radio, mais il vient de sortir une chanson de Brigitte Fontaine, Je suis vieille, je t'encule. Alors, je n'ose pas leur dire ça, mais je le pense profondément.
Ça vous est venu d'où, cette idée de créer cette maison?
Complètement, parce que maman a été grabataire pendant 5 ans, avec une insuffisance respiratoire sévère, pauvre chérie. Et j'avais mes 4 enfants qui étaient en turbulence conjugale, et j'avais 14 petits-enfants, et quand j'entends j'étais une femme seule, je travaillais encore, et quand j'entendais Allô Thérèse, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore qui va faire que je jongle avec mon horaire? Et ça a été assez épuisant pendant 5 ans. Et quand maman est morte, mon père était mort un peu avant, je me suis dit, je vais pas offrir ça à mes enfants. Alors, on cherche sans chercher, et puis je me suis dit, bah voyons ce que je suis bête. Au lieu de vivre ma vieillesse solitaire dans l'ennui, on pourrait la vivre, faire notre petit ménage, notre petite cuisine, et vivre ensemble à 20 ou 30. J'avais pensé 30 d'abord, je voyais grand. Et puis, et donc j'ai écrit mon petit projet comme ça un jour, tralala, tralalaire, vous voyez. Et puis, je montais ici, la Maison des Femmes. La Maison des Femmes, il a fallu 5 ans pour l'obtenir. Et encore, il n'y avait pas de... Et c'était rapide, parce qu'il n'y avait pas de logement, il n'y avait qu'un lieu à trouver, à le rénover, etc., à lancer un projet. Donc, monter la Maison des Femmes et monter une maison de Baba Yaga, c'était trop pour moi. Et puis, j'ai rencontré des copines. J'ai rencontré Monique, qui est peintre et qui exposait ici. J'ai rencontré une Suzanne, qui, toutes deux, avaient de très vieux parents aussi, avec tout ce que ça comporte. Et je leur ai dit, vous savez, j'ai écrit un petit projet, donc je leur explique. Et elles m'ont dit, on va le ressortir, on va le faire vivre. Donc, sauvé, j'avais des copines. Sortir notre maison des Baba Yaga, on l'aura vraiment transpiré. C'est un accouchement au forceps, là j'ai jamais vous dire.
C'était ça, on n'avait pas de case.
Pas de case administrative pour traiter votre projet. Il est innovant, il est superbe, il est très intéressant, mais on n'a pas de case. Alors si vous vouliez un peu renoncer à certaines choses, là on pourrait traiter, par exemple si vous vouliez lui médicaliser, là on aurait des sous pour vous. Mais je dis, c'est justement ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas être médicalisé à mort, ça coûte cher, et ça entraîne les vieux dans une vieillesse dégradée. Donc c'est pas ça qu'on veut. Ah bah oui madame, mais alors vous ne rentrez pas dans les cases. En ce moment, on joue avec l'à peu près, pour jouer avec la loi et créer d'autres cases administratives pour faire appliquer des lois. Alors nous, on est très service public, le privé, on s'en méfie, parce que les vieux ne sont pas du vivant à marchandiser, donc on est très service public, on trouve que on a travaillé toute notre vie, donc l'État doit subvenir à nos vieillesses. L'État ne se rend pas compte qu'il ne va pas pouvoir, qu'ils ne vont pas pouvoir, avec le nombre que nous allons être, nous sommes déjà à l'heure actuelle, le quart de la France a plus de 60 ans. Nous sommes plus de gens de plus de 60 ans que de gens de moins de 20 ans. Dans les 20 ans ou 30 ans qui vont suivre, la France va vieillir. On va être 17% de vieux en 2020 et le tiers de tous les pays industriels aura plus de 60 ans en 2050. Et c'est vous, les jeunes générations, qui allez payer. Et l'État ne se rend pas compte du monstrueux budget qu'il va falloir pour les vieux. Parce que les vieux, ils ont des très petites retraites. Les femmes, le tiers des retraites des femmes, elles ont 400 euros pour vivre par mois. Un autre tiers à 800 euros, en dessous du seuil de pauvreté qui est de 886 euros. Donc, si vous voulez, il va falloir absolument trouver des maisons. Et les Baba Yaga sont une des solutions. C'est pas la solution, parce qu'il y a d'autres projets qui naissent un peu partout et qui sont dans l'idée d'autogestion. Mais toutes les révolutions sont faites par une poignée, l'avant-garde... Je pense que les vieilles aujourd'hui, les vieilles Baba Yaga, sont l'avant-garde éclairée et que nous sommes munis d'un discours dont on pourrait utiliser certaines parties ou même tout dans le monde politique. Seulement les vieux sont profondément... l'indifférence, l'agressivité, l'ironie, le mépris, la sollicitude, c'est autant, si vous voulez, de support pour considérer la vieillesse aujourd'hui. L'autre jour, j'ai ri parce que il y a quelqu'un qui disait « Oh, mais il y avait tout le monde, il y avait les enfants, les jeunes, et puis il y avait les adultes, et il y avait les retraités. » Et l'une de nous a dit « Parce que les retraités ne sont pas des adultes. » Et effectivement, nous sommes une bande à part, nous sommes un groupe à part, inutilisable, inutilisé d'ailleurs, et que l'essentiel, c'est qu'ils nous foutent la paix, qu'ils aient le derrière propre et qu'ils aient à manger, et après qu'ils se démerdent. Nous, ça nous intéresse plus. Des vieux, on peut plus rien en tirer, ce qui est pas vrai. Nous ne sommes pas des pauvres choses, mais nous sommes des êtres humains, fiers et debout, et nous mourrons debout dans l'allégresse, n'est-ce pas ma chère? Bravo. Vous, les derniers de la terre.
Merci au Baba Yaga, merci à Thérèse Claire et Monique Braga. Ce soir, venez nombreux en soutien au journaliste Taoufik Ben Brik, emprisonné en Tunisie, comme vous le savez. Soirée de solidarité à la mairie du 2e arrondissement de Paris. C'est au métro Bourg, c'est à partir de 19h30 et j'y serai parmi d'autres. Merci à Charlotte Perry pour ce reportage. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. On a mis en ligne un texte d'Amira Haas, la journaliste israélienne sur là-bas. .org, et ça tombe bien parce qu'un spectacle Murmure, inspiré d'un dialogue entre Amira Haas et Mahmoud Al-Safadi, un palestinien, mis en scène par Ariel Sipel et Gal Shela, qui avait fait un malheur la saison dernière, reprend à Confluence 190 boulevard de Charonne. On en reparlera. La technique aujourd'hui, Ludovic Asselot et Arnaud Chapat. Koy Nguyen et Raphaël Moutier ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Attend vos messages au répondeur de la basse JSU au 01 56 40 37 37.
Ici, chez TGV, pour faire main sur nos prix, on surveille leur alimentation et on les fait courir. T'en es où, toi?
Moins 40%!
Moins 40? Alors encore 300 tours jusqu'à moins 60!
Oh, y'en a marre!
Les tarifs TGV Proms n'ont jamais été aussi minces. Profitez de billets à moins 40, moins 50 ou moins 60% jusqu'au 8 décembre. TGV, plus de vie dans votre vie.
Offre soumise à condition, également disponible sur Théos, Lunéa et Intercité.
SNCF.
Dis donc, tu m'as dit que tu serais à la poste à 18h pour ton colis, là.
Oui.
Ben, je suis passée devant la poste à 18h05 et tu y étais pas. Explique.
Ben, je devais être déjà partie.
Ne me mens pas, Guillaume. Ne me mens pas.
La poste avance. En un an seulement, l'attente en bureau de poste a diminué de 50%. La poste, la confiance donne de l'avance. Étude réalisée par l'Institut MV2 pour le dépôt de lettres recommandées dans les 1000 plus importants bureaux de poste de septembre 2008 à août 2009.
Ces dizaines de documents qui partent à l'imprimante, était-il vraiment nécessaire de les imprimer? En limitant ses impressions papier, on peut réduire ses déchets de 6 kg par personne et par an.
Du 21 au 29 novembre, c'est la Semaine européenne de la réduction des déchets. Le programme de votre région sur réduisonsnosdéchets.fr.
Réduisons vite nos déchets. Ça déborde. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
Ceci est un message du ministère du Développement Durable et de l'ADEME.
16h et presque une minute sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Les infos, Clotilde Dumès. Salut.
Sécurité renforcée à Marseille et Paris avant le match Égypte-Algérie. Ce match de football qualificatif pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud a déjà entraîné des débordements lors du match aller la semaine dernière. Ce match débute à 18h30 à Khartoum au Soudan. À 21h, ce sera au tour de la France de confirmer sa victoire du match aller contre l'Irlande. Les tricolores sont à 90 minutes d'une participation au Mondial. Il leur suffit d'un match nul au Stade de France ce soir. Bataille d'égo au Parti Socialiste entre Ségolène Royal et Vincent Peillon. La querelle s'envenime. L'ex-candidate socialiste à la présidentielle a écarté hier son ancien lieutenant de la direction de son courant politique, l'Espoir à gauche. Pour Peillon, cette décision relève, dit-il, de la psychiatrie lourde. Les autres leaders du PS tentent d'ignorer ces échanges d'invectives ou de les minimiser. Ainsi, Martine Aubry, la première secrétaire, en a appelé à la fraternité. Clin d'œil au thème fétiche de Ségolène Royal. La réforme territoriale, le patron des députés UMP, Jean-François Copé, marque sa différence avec le gouvernement. Devant le Congrès des maires de France, il a jugé qu'il n'était pas acceptable de prendre comme postulat de départ que les élus locaux font mal leur boulot. On ne peut pas simplement dire halte aux dépenses des collectivités locales sans voir que les communes prennent en charge des missions qui relevaient du seul État auparavant. Fin de citation. À Paris, plus d'une centaine de personnes, dont de nombreux enfants éligibles au droit au logement opposable, mais en attente d'un toit, ont occupé ce matin le restaurant de la direction régionale de l'équipement. Une action symbolique organisée par l'association DAL. Une action qui s'est déroulée au son du slogan « Un toit, c'est la loi ». Le réquisitoire est tombé à Tulle. L'avocat général a demandé 14 ans de réclusion criminelle. C'est dans le procès de ce père accusé d'avoir fait des enfants à sa fille. Celle-ci était majeure au moment des faits, mais affirme avoir été manipulée par son père. La 500e prime à la casse remise aujourd'hui. Et du coup, c'est le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance, Patrick Devedjian, qui s'est déplacé pour la remettre. Il s'est par la même occasion félicité d'un succès qui a dépassé les prévisions du gouvernement. Le versement de la prime à la casse de 1 000 euros sera effectué pour les véhicules achetés jusqu'au 31 décembre. Elle passera à 500 euros au premier semestre 2010 et à 500 euros au second. Hillary Clinton à Kaboul pour l'investiture d'Hamid Karzai. La secrétaire d'État américaine est arrivée cet après-midi en Afghanistan. Il s'agit de sa première visite en Afghanistan depuis qu'elle a été nommée secrétaire d'État il y a un an. Et puis Johnny Depp est l'homme le plus sexy, toujours pourrait-on ajouter. À 46 ans, l'acteur américain a été désigné aujourd'hui comme l'homme le plus sexy parmi les vivants par le magazine People. Un titre très convoité, paraît-il, qu'il avait déjà remporté en 2003.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Nous vous attendons pour des enregistrements en public dans l'Oise, aujourd'hui à Noyon, au Théâtre du Chevalet à 18h30. Et demain à Saint-Leu-d'Esserans, à la salle Art et Culture, à 20h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
France Inter, la différence.
7h04 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver le Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Clotilde. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, nous attendons Cecilia Bartoli qui ne boude pas, mais son train a eu 40 minutes de retard, elle vient d'une tournée à l'étranger, et donc elle est dans un taxi, et en l'attendant, et pour annoncer d'ailleurs ses concerts, et pas seulement ça, elle va nous parler de son enregistrement, je l'espère bien, il y a ses concerts vendredi 20, après-demain, à 20h, avec il Giardino Armonico et puis Giovanni Antonini qui dirige, c'est au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, et puis le dimanche 22 à 17h, et c'est le programme du disque qui sera proposé. En espérant, en attendant toujours Cecilia, je vous propose un autre enregistrement dont nous sommes partenaires ici à France Inter. Ce sont les concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, belle œuvre avec John Eliot Gardiner comme surveillant, comme il le dit lui-même quelquefois, chef d'orchestre en exercice, mais pas toujours nécessaire devant de petites formations, avec les membres des English Baroque Soloists. Alors, tout de suite, pour commencer, et un peu dans le style de Cecilia Bartoli, une voix aiguë, mais c'est un instrument, là. C'est un instrument qui essaye d'imiter les sopranos, les mezzo-sopranos d'autrefois, voire les castrats, ça va être le sujet de l'émission. Donc la trompette tellement difficile à jouer qu'on entend dans l'Allegro assai du deuxième concerto brandebourgeois. Thank you. Allegro Assai du deuxième concerto Brand. Bonjour, Jean-Sébastien Bach. Neil Brough à la trompette. Il mérite bien d'être nommé, bien sûr. C'est un exploit de jouer dans l'aigu cette partie tellement exigeante avec The English Baroque Soloist menée ou conseillée par John Elliott Gardiner selon les cas. Et voici un autre extrait de ce disque puisque les concertos Brand bourgeois, c'était une sorte de laboratoire de l'instrumentation. Jean-Sébastien Bach avait beaucoup appris de Vivaldi qui lui-même a fait d'énormes essais puisqu'il a écrit plein de concertos pour plein d'instruments différents. Voici la polonaise du premier de ces concertos Brand bourgeois.